Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Dans un bus.
C'est un super prix.
En prenant le train.
Oh, c'est un super prix.
Ou même dans les montagnes russes.
C'est un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
À voix nue. Cette semaine, Antoine Ravon rencontre Didier Ribon. Ce soir, le Gai Savoir.
Bonsoir Didier Ribon.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez parlé de vos premières années de journalisme et du rôle de l'amitié à la fois dans votre vie, mais dans votre vie professionnelle, puisque vous avez rencontré Foucault et Bourdieu. Et justement, votre tout premier livre a été consacré à Michel Foucault. Vous lui avez consacré une biographie.
Ce livre était pour moi une tentative de comprendre à la fois la personnalité de Foucault, qui il était, personnage énigmatique, assez fascinant, mais aussi un peu mystérieux. Et puis son œuvre, avec des livres éclatants comme Histoire de la folie, comme Surveiller et punir, ou les trois volumes publiés de son Histoire de la sexualité. Et j'essayais de comprendre à la fois la logique interne de son œuvre et l'évolution, les étapes successives de son œuvre, en les liant à non seulement sa personnalité, mais l'inscription de cette personnalité dans ses différents moments, dans ses différentes époques historiques, du point de vue politique ou historique du point de vue spécifiquement intellectuel, et le lien entre tous ces registres et tous ces niveaux. Et donc, ce livre était une tentative de restituer à la fois indissociablement une personnalité et une œuvre que je trouvais impossible de distinguer de la personnalité. On ne comprend pas l'œuvre de Foucault si on ne se réfère pas à sa personnalité. Et on peut dire que sa personnalité, c'est ce qu'il a écrit dans ses livres. Mais il y a chez Foucault, c'est ce que j'essayais de montrer, une sorte d'insurrection permanente contre les normes, la normativité, une sorte de volonté de résistance au système de pouvoir, et comment tout ceci s'exprime dans ses livres, et surtout dans ceux de ses livres dont il a dit « ce sont mes vrais livres, ce sont les livres que je considère comme étant mes vrais livres », à savoir « Histoire de la folie »,« Surveiller et punir », et Histoire de la sexualité. Le lien entre l'œuvre et la vie ici me semble si évident, et Foucault est écrit en intensité, et on ne peut le lire qu'en intensité. Il faut faire une lecture intense de l'œuvre de Foucault. Si on lit ça comme de la philosophie, on passe à côté de ce qui est au fond de la démarche intellectuelle. Je crois que quand on lit des livres qui sont devenus des classiques, souvent ces livres parce qu'ils sont devenus des classiques, soumis aux commentaires, ils ont perdu ce qui a fait la force qui a présidé à leur écriture et la force qui a été le moment de la publication. Qu'est-ce qu'ils ont représenté? Qu'est-ce qu'ils ont incarné? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Et ce que je veux faire quand je lis un livre, ou quand je me sers d'un livre, c'est retrouver le feu, la flamme, la passion qui ont présidé, qui ont animé l'écriture du livre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette biographie de Foucault, retrouver le feu, la flamme, la passion qui était dans ses livres et que le commentaire académique, et ça n'a fait que s'amplifier depuis, le commentaire académique qui s'est abattu sur lui risquait de nous faire perdre. Il y avait des enjeux des livres de Foucault, il fallait les restituer, en restituant dans ces époques. Que voulait-il faire? Que voulait-il dire? Contre qui écrivait-il? Pourquoi écrivait-il? Et je crois que c'est vrai de tous les auteurs. Retrouver la passion qui a animé le geste d'écriture au moment où ils ont écrit tel ou tel livre. Et ça, c'est particulièrement vrai, je crois, pour un auteur comme Foucault. On m'a reproché, on m'a dit « Ah, mais c'est nier l'importance philosophique des livres de Foucault ». Absolument pas, comme si le fait que dans les livres d'un auteur, il y ait des pulsions personnelles où des gens défendent leur vie dans ce qu'ils écrivent, comme si ça atténuait la portée philosophique d'une œuvre. C'est une étrange conception de la philosophie. Quand je lis Foucault, je vois que c'est sa vie qu'il défend. Et la puissance de sa philosophie vient du fait qu'il défend sa propre vie, et donc nos propres vies, contre les systèmes de pouvoir. Et c'est ça la force de sa philosophie. C'est pas savoir si dans telle page il se réfère à Heidegger ou à Husserl, etc. Je dis pas qu'on peut pas faire ça, c'est légitime, à condition que ça n'annule pas la portée, la puissance d'une œuvre liée à une sorte d'intention, de pulsion.
Mais dans cette biographie, c'est une conception de la philosophie que vous défendez, le fait qu'elle s'ancre dans un parcours biographique, ou est-ce que c'est ce que Foucault disait lui-même de son propre travail ?
Quand j'avais écrit cette biographie, des gens m'ont reproché en disant « Ah, Didier Ribon explique des œuvres comme Histoire de la folie comme par l'homosexualité de Foucault, c'est scandaleux. » Et dans une interview qui a été découverte après sa mort, il dit « Quand j'ai écrit Histoire de la folie, c'est mes propres problèmes avec ma sexualité que j'ai voulu aborder. » Donc ce que j'avais établi, deviné, ce que je savais, parce que je l'avais bien connu, que je percevais qui il était quand je le connaissais, mais qui il avait été auparavant, les souffrances, la douleur d'avoir été un jeune gay victime de l'homophobie prégnante dans le monde social, ce que j'avais perçu de lui et de son œuvre antérieure, que je ne connaissais pas évidemment quand il a écrit Histoire de la folie, lui-même le disait, je voulais aborder mes propres problèmes avec ma propre sexualité. Dans un livre qui s'appelle Histoire de la folie, c'était un livre contre le diagnostic psychiatrique, comment des gens sont exclus de la culture, au sens ce qui définit une société, comment ils sont réduits au silence. L'histoire de la folie dit, je veux faire une archéologie d'un silence, notamment le silence gay, pas seulement le silence des insensés ou des malades mentaux. Donc j'avais perçu tout ça, ce qui animait l'œuvre de Foucault au plus profond de ce qui gouvernait, si je puis dire, sa volonté d'écrire, sa volonté de savoir, si je puis dire.
Oui, ce que vous me dites me fait penser à un texte que vous avez écrit dans Principe d'une pensée critique qui s'appelle Vie hantée. Vous parlez, parce que vous appartenez à une génération de gays qui a connu les années sida, et vous parlez de Foucault en disant que parfois vous vous posez la question qu'est-ce qu'il aurait écrit, et que vous-même, votre travail est aussi animé par le désir de maintenir ce feu dont vous parliez tout à l'heure à propos de Foucault.
Vie hantée, c'est un texte que j'ai écrit, c'est un peu une référence à un livre du romancier britannique Alan Olinghurst, où un personnage d'un de ses livres est malade du sida et va mourir, et se dit comment mes amis se souviendront de moi plus tard, etc. Et je me suis dit, mais je suis, pour un certain nombre de gens, cet ami qui se souvient d'eux plus tard, et notamment des amis très proches que j'ai perdus, et notamment Michel Foucault, et comment ma vie, la vie de ceux qui ont survécu à l'épidémie du sida, l'épidémie qui comment dire, le sida, c'est pas derrière nous, vous savez, c'est toujours une maladie qui fait des centaines de milliers de morts, il n'y a pas de traitement et pas de vaccin. Je me suis posé la question, à propos de Michel Foucault, il vit toujours, j'ai fait un livre sur lui, je parle de lui dans beaucoup de livres, ma vie est hantée par les amis que j'ai connus qui sont morts et par tout un nombre de gens, tout un espace. Donc j'ai connu des gens que je n'ai pas connus, mais dont je connaissais les noms, et qui sont... ma vie était hantée depuis lors par ces disparitions, et par les disparus que j'ai aimés, que j'ai lus. Et alors, qu'est-ce que Foucault aurait écrit s'il n'était pas mort ? Je ne sais pas, il avait des projets où il disait « je ne veux plus écrire, j'ai fait ce travail, mais maintenant je voudrais faire autre chose ». Ou bien il disait « je ferai ensuite une histoire de l'amitié, justement, il avait des projets ». Je ne sais pas du tout ce qu'il aurait fait après sa mort. Je peux simplement me demander qu'est-ce que c'est que pour ceux qui survivent à ceux qui sont morts, que d'écrire après. Mais comment écrire sans jamais oublier ça? Sans jamais oublier ça. Merleau-Ponty, dans un texte juste après la Deuxième Guerre mondiale, se pose la question quelle sera la société dans laquelle nous allons vivre et comment cette société va penser qu'elle est privée de tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Donc c'est une vie, la société est forcément hantée, quand il y a un cataclysme comme ça, par tous ceux qui ont disparu. Et le sida, ce n'est pas une période de quelques années, c'est une longue période. Comment on peut écrire en ayant en tête ce que n'ont pas fait, ce qu'auraient pu faire ceux qui ont été victimes de la maladie? Ce que n'a pas pu écrire Michel Foucault, ce que n'a pas pu écrire Hervé Guibert, ce que n'a pas pu écrire Jean-Luc Lagarce, ce que n'ont pas pu écrire ou faire, ou filmer, ou tant de gens en France, en Europe, dans le monde entier, comment continuer à écrire, puisqu'il faut bien continuer, sans jamais perdre de vue, ou en tout cas sans jamais oublier, effacer la trace absente de ce que n'ont pas fait ceux qui ont disparu. Comment considérer qu'il y a une présence de leur absence. Et donc, quand j'écris et que je cite Michel Foucault, c'est toujours pour redonner, non pas pour commenter son œuvre, mais pour redonner une vie, une puissance, une force, une radicalité nouvelle à son œuvre interrompue.
Donc, vous venez de nous parler de la manière dont vous avez pensé que la trajectoire de Foucault avait influencé son travail philosophique, ou plus exactement dans quelle mesure son travail philosophique s'ancrait dans son parcours biographique. Et c'est ce que vous avez fait vous-même des réflexions sur la question gay en 1999, où toute la première partie est consacrée à l'injure, à la honte de l'homosexuel, qui s'ancrait évidemment dans votre propre trajectoire à vous. J'imagine que vous avez vécu cette honte et cette injure, ou en tout cas la menace de l'injure.
Oui, à la parution de ce livre, je crois me souvenir que j'avais dit dans un entretien que Réflexion sur la question gay, c'était une sorte d'autobiographie déguisée en livre historique, sociologique et théorique. Mais évidemment, il s'agissait d'une autobiographie collective, puisque ce qui m'intéressait, c'était d'analyser la constitution des identités personnelles et donc collectives à travers une analyse des processus de subjectivation, en l'occurrence d'assujettissement. Comment un certain nombre de sujets, des catégories entières de la population, sont soumises à un statut stigmatisé ou stigmatisable, insulté ou insultable, et donc inférieur ou infériorisable. Et il s'agissait pour moi de montrer que être gay, c'est pas un trait de caractère individuel, c'est une catégorie collective dans laquelle les individus entrent, qu'ils le veuillent ou non. Puisque, à travers l'insulte, toute personne qui reçoit cette insulte constitue son identité, et elle constitue son identité qui est la même que l'identité d'autres personnes. Donc c'est une identité collective qui est produite par les structures de l'ordre social.
Mais dans quelle mesure c'est des identités qui sont objectives, par exemple? Parce que je pense, alors je sais que vous n'aimez pas trop cette théorie, mais la théorie de Freud de la bisexualité psychique, on pourrait dire que si tout le monde est psychiquement bisexuel, l'homosexualité ne renvoie pas autant à des catégories objectives que cela.
Oui, je n'ai jamais cru, comme vous venez de le signaler, je suis un lecteur de Freud, mais pas un grand adepte de ses théories, et je n'ai jamais cru beaucoup à cette idée d'une bisexualité fondamentale qui est une manière d'évacuer précisément le fait qu'il y a des sexualités différentes et donc des identités différentes qui sont liées à ces sexualités différentes. Parce que on peut dire bisexualité, mais l'homme hétérosexuel ou la femme hétérosexuelle qui se promène dans la rue et qui entend l'injure PD ou Gwyn, ça ne constitue pas son identité. Le jeune homme gay ou la jeune fille lesbienne, ces insultes sont une force, j'allais dire performative, ça s'inscrit dans leur personnalité, dans leur corps même. Et donc, il y a une force de l'insulte, une force de l'injure. L'injure, ce n'est pas un mot qu'on reçoit comme ça un jour dans la rue, ce qui n'est pas très agréable, surtout quand c'est un mot qu'on reçoit quasiment tous les jours ou plusieurs fois par jour. Mais l'injure, c'est une structure sociale, c'est une structure de pouvoir, c'est un système de pouvoir. Il y a celui qui peut injurier et celui qui est l'objet de l'injure. Et très précisément, l'injure, de la part de celui qui la lance, c'est de dire à l'autre « tu es quelqu'un que je peux injurier et tu ne peux rien contre ça ». Donc c'est une forme de, c'est une manifestation d'une structure de pouvoir. Et par conséquent, être injurié, c'est être soumis à un pouvoir. Et ce n'est pas simplement blessure psychologique, c'est la constitution d'un être social. Tout le rapport au monde est construit par le fait d'être quelqu'un qui est injurié. Injurié au sens très large, les images, les propos déplaisants, malveillants qu'on entend, les ragots, tout ça, les plaisanteries, les allusions, tout ça, ça relève du discours injurieux, de l'insulte. Par conséquent, l'insulte, c'est une structure sociale de pouvoir et de domination qui produit la constitution d'identité personnelle à travers cette constitution d'une identité collective qui est désignée par les termes que désignent les insultes. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que on ne peut pas comprendre les mouvements sexuels contemporains si on n'analyse pas les formes de pouvoir qui produisent ces processus d'infériorisation et de domination et les résistances qui naissent face à ces processus de domination et d'infériorisation.
Oui, parce qu'une des questions que vous posez, c'est comment, quand on est le sujet de cette honte-là, on peut essayer de s'en départir.
Pour revenir à l'ancrage biographique dont on a parlé dans les émissions précédentes, il est évident que moi, quand j'étais un jeune gay, j'avais honte. J'étais saisi d'effroi à l'idée que ma vie serait marquée par l'obligation de cacher ce que j'étais, ce que je suis, la honte que ça produisait d'être l'idée d'être découvert, ou quand on est découvert, la honte d'être désigné comme ce qu'on est. Et le processus, la honte est un sentiment très 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 puissant. Il est très 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 difficile de dépasser le sentiment de la honte. Et en fait, on ne le dépasse jamais, ça revient toujours sous la forme justement de l'insulte, de l'allusion malveillante, de la moquerie. Donc la honte est un sentiment très 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 puissant, et Réflexion sur la question gay est un livre en grande partie traversé par une analyse de ce sentiment de la honte dans ses différentes manifestations, dans ses différentes formes, ses différentes déclinaisons, notamment comment la honte s'inscrit dans le corps des individus. Et comment, précisément, on dit toujours, mais fierté, la marge des fiertés, pourquoi être fier, est-ce qu'il y a de quoi être fier d'être homosexuel? Non, on pourrait dire qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être homosexuel, si ce n'est que quand on a le choix, être honteux ou être fier, beaucoup de gens arrivaient à un moment, après avoir été tellement honteux d'être ce qu'ils étaient, parce que l'ordre social leur inscrit la honte dans la tête, il arrive un moment où ces gens se disent, je dépasse ça, et je le dépasse sous forme d'affirmation, donc de fierté. Or, cette affirmation, elle ne peut être que collective. On ne résiste pas à l'ordre social et aux structures instituées de l'ordre social depuis des décennies, ou peut-être même des siècles, tout seul dans son coin, parce que c'est trop lourd à porter.
Oui, ça me fait penser à une phrase d'Annie Arnaud qui dit « Le pire dans la honte, c'est qu'elle isole les individus ». Donc la fierté, ce serait pour se désisoler, en quelque sorte, de la honte.
En fait, la honte crée un collectif. Mais par définition, puisque ce sont des gens qui sont assignés à un même sentiment, à une même identité dévalorisée, infériorisée. Donc le collectif existe. Il s'agit de transformer ce collectif objet du regard, objet de l'insulte, en collectif sujet qui produit son propre discours, son propre regard sur le monde, comme Sartre l'analyse très bien dans son livre sur Jean Genet, Saint Genet comédien et martyr, où toute l'analyse qu'il produit de l'œuvre de Genet, c'est comment Genet opère cet extraordinaire tour de force qui est de renvoyer le regard, ne plus être l'objet du regard des autres et du discours des autres, simple objet de ce qu'il, comment il nous voit, comment il nous pense, mais de devenir le sujet de son propre regard et de son propre discours, et de dire aux autres, je vous regarde et je vous pense aussi. Donc ce retournement, si on peut dire cette inversion du regard, ce renversement du regard, est quelque chose de tout à fait capital. Mais quelque chose a précédé cette affirmation de soi comme sujet, c'est la constitution des individus comme objet par le regard social, c'est-à-dire par tout l'ordre social et toute l'histoire de l'ordre social.
Oui, moi ça me fait penser à quelque chose, c'est que ce qu'on peut dire aussi sur la honte, c'est qu'elle se loge à des moments très anodins parfois, et je me souviens par exemple que la première fois que j'ai lu Réflexion sur la question gay, c'était pour France Culture, où je travaillais à l'époque déjà, et j'ai commencé donc à lire Réflexion sur la question gay, et dans le bus j'avais peur que les gens voient le livre que je lis en se disant « Ah, ça veut dire qu'il est gay ». Donc il faut, je pense qu'on peut préciser que c'est à des moments parfois très anodins que la honte peut se cacher.
La honte revient. Quand ce livre est sorti, Réflexion sur la question gay, mon éditeur chez Fayard m'a dit, c'est amusant de voir où ce livre se vend. Se vend souvent, très bien à Paris, beaucoup plus à Paris que dans les autres régions, mais quand il se vend dans les autres régions, c'est toujours dans les grandes surfaces ou dans des très grandes librairies et pas dans les petites librairies, comme si les gens avaient honte dans la petite librairie de la petite ville ou du village, qu'on sache qu'ils achetaient ce livre. Mais je ne blâme personne en disant ça, je comprends très bien, j'ai vécu ça moi-même, d'être obligé de cacher ce qu'on a envie de lire. Si je peux raconter une anecdote, un jour j'ai acheté mon... À l'époque, j'achetais encore les journaux, maintenant ça m'a passé. La marchande de journaux à côté de chez moi, entre quelqu'un, un échange, il s'en va, elle me dit « Oh, je l'aime pas celui-là, c'est un PD. » Et je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Comme si c'était trop... Comme si l'obligation de se taire, de silence, ressurgissait, l'emportait tout le temps. Et après, je m'en voulais et je me suis dit « Mais... je n'avais pas encore pris mon café. J'ai acheté le journal pour aller prendre un café au café du coin, au zinc du café du coin. » Si, avant même d'avoir pris son café le matin, il faut se battre pour dire « Ah, vous savez, etc. » C'est trop fort. Mais ça veut dire que l'ordre social, c'est pas seulement l'agression physique par des supporters d'un club de foot. C'est aussi la marchande de journaux, le chauffeur de taxi... etc. Toutes les situations de la vie quotidienne, vous êtes ramenés à cette honte. Et on comprend pourquoi il y a cette volonté de faire silence sur soi, et aussi pourquoi, de temps en temps, il y a cette explosion de colère, cette affirmation de soi, cette volonté de dire « je suis fier », de la même manière que les grands mouvements d'émancipation, comme le mouvement noir pour les droits civiques dans les années 50-60 aux États-Unis, ou le mouvement Black Lives Matter aujourd'hui, sont des mouvements qui affirment quelque chose. Le slogan des années 60, « Black is beautiful », on pourrait dire après tout « Black, c'est pas plus beautiful qu'une autre couleur de peau ». Mais la couleur de peau ayant été tellement disqualifiée, ostracisée, moquée, il arrive un moment où on dit « Oui, black is beautiful, j'affirme la beauté de la couleur de ma peau, de ma culture, de qui je suis, de mes origines, etc. » Donc ce mouvement d'inversion du stigmate est un mouvement très très puissant. Mais passer de la honte à la fierté, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour d'une part, et qui n'est jamais gagné pour toujours. Dans le roman de Genet, Notre-Dame des Fleurs, il y a ce personnage de divine, travesti, flamboyant, prostituée, etc., on pourrait penser qu'elle a bravé toutes les hontes, Et puis d'un seul coup, elle passe dans un escalier, quelqu'un lui fait une remarque malveillante, et le rouge lui monte aux joues, elle devient toute comme si, même pour elle, la honte pouvait revenir à un moment donné de sa vie, quand elle est confrontée au regard ou à la parole injurieuse. Donc la honte est un sentiment extrêmement puissant, et je dirais qu'il est disséminé dans toute la société, et il est très difficile de l'analyser parce que, par définition, la honte, c'est ce dont on ne parle pas ou pas beaucoup.
Je me demandais dans quelle mesure le fait d'écrire un livre sur la question gay, justement, pour vous, c'était une manière de tenter de dépasser votre propre honte.
En l'occurrence, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'avais dépassé depuis longtemps cette honte-là. Quand j'ai écrit ma biographie de Foucault, 10 ans avant, la honte est un sentiment que j'avais dépassé, encore que, comme je viens de le dire, on ne dépasse jamais totalement la honte. Se retrouver devant des étudiants, par exemple, chaque année, un nouvel amphi, un nouveau séminaire, des nouveaux collègues, un nouveau médecin. On peut retrouver le sentiment de gêne, de malaise, de honte. Et réflexion sur la question gay, c'était plutôt aider, ayant dépassé moi-même depuis longtemps ce sentiment de honte, aider les autres.
Ceux qui y étaient encore.
Qui étaient encore, quel que soit leur âge, pas seulement les jeunes gens, mais beaucoup de gens plus âgés qui vivaient toujours dans des identités précautionneuses, à demi cachées, douloureuses. Regardez Roland Barthes, quand vous lisez Barthes, pour ne prendre qu'un exemple célèbre, vous voyez à quel point son identité d'homme gay était un peu vécue douloureusement. Mais si vous regardez quelqu'un comme Foucault, c'est pareil. Ses premiers textes sont traversés par la question de l'angoisse, de la peur, la question de la folie, toujours sur le point de basculer du côté de... toujours être en équilibre instable sur une ligne de crête sur laquelle vous marchez dangereusement et toujours prêt de basculer du côté de la folie. Et ça, je pense que l'homosexualité, pas en tant que sexualité, mais l'homosexualité en tant que dévalorisée, assignée à la honte, assignée à la peur, produit ces phénomènes-là. Et si vous lisez un livre comme L'histoire de la folie de Foucault, vous voyez bien que c'est hanté par cette question de toutes ces catégories de la population qui sont rejetées par la culture dans une société donnée.
Merci Didier Ribon. On se retrouve demain pour la suite de notre série d'entretiens. Et demain, vous nous parlerez de vos engagements politiques qui sont multiples.
Merci, à demain. Demain.
Demain, la suite de cette rencontre d'Antoine Ravon avec Didier Ribon. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son François Rivalant. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue. Se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.